Restons courtois. Richard de Sèze.
Richard de Sèze, Marie-Charlotte du Bourblanc, et donc nous venions de recevoir Radouche Tonescu, et maintenant nous recevons Bertrand Duguay. Radou, j'ai dû dire 20 fois Tonescu, en fait.
Deux fois, mais c'est
deux
pas
fois,
grave.
Voilà, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je confonds. Je sais, parce qu'il y a Radouche Tonescu qui est l'éditeur des éditions Carmin et qui fait des bouquins épatants et qui m'arrive de recevoir sur Radio Courtoisie. Radou Portocala, nom admirable, écrivain excellent, donc pour son livre Descendre dans la Roumanie de Ceausescu. Et maintenant, c'est Bertrand Duguay. Du coup, je tiens le livre comme un naufragé s'accroche à une planche. La terre où les illusions retrouvées, donc aux éditions Baribal. Juste avant, je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous demander de l'argent. Voilà, c'est la semaine sainte, n'hésitez pas. Radio Courtoisie, c'est un sacrifice de plus qu'on vous demande, mais enfin, c'est un bien doux sacrifice. Vous êtes des centaines de milliers à nous écouter. Vous êtes, si j'additionne les directs hertziens, les directs numériques et tous ceux qui réécoutent nos émissions, vous devez être 1,5 million, en fait, à nous consulter chaque semaine. Donc, merci. Vous êtes quelques milliers à nous donner de l'argent, entre quelques milliers et 1,5 million, il y a un léger gouffre, et bien, n'hésitez pas à commencer à le remplir avec vos dons sur soutenir.rc.fr. Voilà. Et j'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez continuer à appeler Louise au 01 46 51 00 85 ou nous envoyer des courriels, à courtoisie@rc.fr. Voilà, et un auditeur de Radio Courtoisie nous dit que Ceausescu était le génie des Carpates. Il a raison, ça faisait partie des noms que nous avions cités et qu'il faut garder en mémoire deux faits. Les milliers de morts torturés à Timișoara, si ce n'était des dizaines de milliers, n'étaient que les malades de l'hôpital central, autopsiés selon la loi de l'époque. C'est vrai, il y a eu cette forgerie. Et le magnifique plaidoyer de l'avocat de Ceausescu, mon client est coupable et mérite un verdict exemplaire, évidemment. C'était le moment ou jamais de se venger. Bertrand Duguay, nom d'un chien. Vous avez écrit un roman dont le héros s'appelle Romain. Et voilà, et je sens que je ferai la faute jusqu'au bout, vous me pardonnerez. Je suis coutumier du fait. C'est un roman épatant. Alors, pourquoi vous recevoir après quelqu'un qui nous parle de cette espèce de fantasmagorie noirâtre de la Roumanie de Ceausescu ? Parce que vous aussi, vous mettez en scène un univers imaginaire. C'est celui de la France d'aujourd'hui, qui a l'air d'être complètement dépourvue de mythes. Mais justement, dans votre Bretagne, arrive le possible descendant du roi Arthur et qui s'installe en Bretagne et qui fait peu à peu revivre ce rêve. Donc, il y a un rapport là aussi à la vérité, au mensonge, au mythe. Sauf que vous, c'est un mythe vivifiant, ce n'est pas ce mythe communiste desséchant et malfaisant, c'est au contraire un mythe admirable. Pourquoi avoir choisi de ressusciter en quelque sorte le roi Arthur en 2026 ?
Alors, c'est vrai que c'est une bonne question, parce que la figure du roi Arthur est une figure quand même très très lointaine, mais vous avez quand même remarqué que c'est pas moi qui le ressuscite, c'est-à-dire que le roi Arthur est très vivant. Je pense que c'est ça qui m'a intéressé. Le roi Arthur est très vivant, alors que ça fait bien longtemps qu'il n'est plus roi de Bretagne, du royaume de l'Ogre. Ça fait peut-être tellement longtemps qu'on se demande, à vrai dire, s'il ne l'a jamais été. Il y a quand même beaucoup de travaux historiques qui ont été faits sur Arthur. Il est inspiré d'un personnage, mais c'est peut-être un mythe, mais c'est ça qui le rend intéressant. Et c'est aussi ça qui explique probablement qu'il est vivant, parce que ce mythe arthurien, moi c'est ça qui m'a fasciné, continue d'infuser la Bretagne et un petit peu par tous les ports et par des canaux très divers. C'est-à-dire qu'il y a le mythe arthurien qu'on connaît à l'école ou qu'on connaît parce qu'on lit un roman jeunesse ou qu'on étudie Chrétien de Troyes. Mais il y a aussi le mythe arthurien qu'on voit par un attachement à des séries, un attachement à des films, un attachement à des traditions populaires, un attachement à des lieux. Et donc cette vitalité du mythe, puisque vous parliez de mythe, et vous opposiez les mythes vivifiants aux mythes mortifères, c'est vrai que les totalitarismes ont inventé des mythes qui sont pas des mythes, qui sont des idéologies. Alors que les mythes, eux, ceux qui vivent vraiment, ceux qui continuent de prospérer malgré le fait qu'il ne soit entretenu par rien, qu'il résiste à l'épreuve du temps, alors qu'il n'y a aucune structure politique pour les soutenir. Ces mythes-là ont visiblement quelque chose d'organique, quelque chose d'animé. Et donc, c'est ça qui m'intéressait, oui.
Alors, ça vous intéresse. Et pour rentrer dans ce mythe, vous commencez par choisir le héros le plus plat, le plus insipide et le moins tentant possible. Je lis les premières phrases. À l'époque, j'avais 25 ans. Donc, on sent que vous avez terriblement éloigné le héros de votre propre personne. Je me croyais doté d'un talent inné pour le journalisme et j'étais tellement sûr qu'il serait aisément reconnu que j'en arrivais à en faire douter tout mon entourage. Après des années à me laisser porter, j'avais atterri dans la rédaction d'une feuille de chou intitulée « Ma santé d'abord ». J'y avais décroché un premier mi-temps et un alibi pour les interrogatoires familiaux. Ce qu'on y faisait était à peu près aussi éloigné du journalisme à la Albert Londres que le travail de Tintin, qui démantèle des réseaux de gangsters pour ses reportages au petit 20e. Autant dire qu'aucun des journalistes de Ma Santé d'abord ne l'était par vocation.
Oui, mais ça m'intéressait effectivement d'avoir un personnage plat et un peu rêveur. Ça m'intéressait aussi d'essayer d'avoir quelqu'un qui incarne une forme de platitude de notre époque contemporaine. Alors vous allez me dire, bon, ça c'est une question de point de vue, mais on a souvent le sentiment que le contemporain est plat, alors que le passé était grandiose. C'est peut-être une illusion, mais c'est ce qui m'intéressait, parce que ce personnage, ce narrateur plat, qui se définit lui-même comme un bobo, parce que cette classe des bobos est tellement étendue que un grand nombre de Français finit par se reconnaître, y compris gens qui sont en fait de la classe moyenne, qui ne sont pas spécialement des bourgeois bohèmes, qui ne sont pas non plus très bohèmes. Et donc, ce personnage du journaliste un peu raté, qui va se revivifier un petit peu, effectivement, au contact du mythe, en tout cas se poser quelques questions un peu existentielles. Oui, ça, c'est un personnage qui m'était sympathique et qui me plaisait.
Alors, pour moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est pour déjà trouver ce personnage plat, d'une part, comment vous avez travaillé, et d'autre part, quelles ont été vos influences littéraires, au-delà justement du choix du mythe des légendes arthuriennes.
Oui, parce que c'est vrai que le légendaire arthurien, c'est qu'un élément.
D'ailleurs, je précise pour les auditeurs, votre livre n'est pas un roman historique, mais c'est bien une présentation et une fresque sociale. C'est d'ailleurs précisé dans le communiqué de presse que j'ai lu.
Et les gens ne mentent jamais dans les communiqués de presse.
Mais voilà, je le dis bien, ce n'est pas un roman historique. Pardon.
Non, mais les gens ne mentent jamais dans les communiqués de presse. Et celui-ci est tout à fait véridique. Tout ce qui concerne la fiction, en général, est entouré de beaucoup de vérité. Donc, ça n'est pas du tout un roman historique, effectivement. La question de l'inspiration arthurienne, c'est presque un élément, si vous voulez, dense, auquel le roman se heurte, tourne autour, mais ça n'est pas un roman sur Arthur. Pour les inspirations, y a beaucoup d'auteurs qui sont pour moi des maîtres, qui me guident, je pense. Il y a quelques auteurs auxquels je pourrais reconnaître une dette. Il y a Julien Gracq, qui est donc... vos auditeurs connaissent sûrement, et qui est un auteur de l'Ouest, qui est même un auteur nantais, enfin, qui a fait ses études à Nantes. Il a vécu toute sa vie à Saint-Florent-le-Vieil, en Vendée, c'est donc pas spécialement un Breton, mais il connaît bien ce monde-là. Il a écrit un peu sur le roi Arthur, d'ailleurs. Et c'était une inspiration, déjà parce que c'est un merveilleux écrivain, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui a une posture assez contemplative dans son écriture, qui a une capacité à faire sentir des ambiances comme personne en littérature, enfin comme très peu d'écrivains, et qui a aussi, peut-être du fait de l'influence du surréalisme, il a été très engagé là-dedans, mais une capacité à mélanger poésie et récit d'une façon remarquable. Puis en général, j'aime beaucoup les écrivains qui finalement ont une part d'onirisme. Vous voyez quelqu'un comme par exemple Henri Bosco, le Malicroix d'Henri Bosco. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce roman qui est merveilleux et qui raconte quelqu'un qui va être plongé dans en Camargue, dans un héritage d'un grand-oncle décédé, qui est un grand-oncle qui s'appelle de Malicroix, Cornelius de Malicroix, et qui est très superbe et qui lui a légué une masure misérable. Et le narrateur, qui est lui-même un personnage assez plat, mais bon, va se retrouver confronté à cet héritage. Et il y a une part d'onirisme. Vous voyez, là, je me rends bien compte en résumant le roman qu'il y a, des thèmes qui sont similaires. Et puis, bon, je pourrais citer beaucoup d'autres auteurs qui me parlent énormément. Conrad, Au cœur des ténèbres, par exemple, de Joseph Conrad, voilà, qui est une espèce de promenade dans le réel du Congo colonial belge qui progressivement prend une portée métaphysique et qui à la fin devient un roman complètement halluciné. C'est le sommet de ce que peut faire, je pense, l'art romanesque. Puis il y a Balzac et puis il y a tant, et voilà.
Très bien. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu dans votre premier roman, d'ailleurs, précisons-le, au-delà de la plume que je trouve très agréable et une lecture très fluide, c'est que vous venez mettre tantôt des petites touches d'humour, tantôt des petites touches de cynisme. Il y a une citation notamment qui me fait beaucoup rire, c'est dans les toutes premières pages. « Dans leur maison de campagne, les Armilles menaient une vie dont la temporalité était légèrement différente de la nôtre. Je crois qu'ils n'avaient pas encore vraiment digéré la Révolution. Ni les Lumières, ni le cartésianisme, ni la Réforme d'ailleurs. On n'était plus à un siècle près. Pour cultiver qu'ils étaient, je n'avais jamais entendu dans leur bouche le nom d'artiste contemporain, contrairement à ma mère qui m'avait persécuté mon adolescence durant avec les peintures de Soulages et les pièces de Wadji Mouarad. » Alors déjà, je trouve que la première partie, donc les Armilles, donc la famille chez qui votre héros romain va passer quelques temps, me fait penser à la famille de Richard de XVI. Vous non plus, vous n'avez pas digéré la Révolution française et tout ça.
Et encore moins la Réforme, on est bien d'accord.
Non mais c'est toutes ces petites touches que je trouve très plaisantes, que vous avez distillées tout au long du roman. Là, j'ai juste donné une citation des premières pages. Mais c'est truffé de références artistiques... d'ailleurs, surtout artistique, je trouve, un peu littéraire, mais c'est distillé avec beaucoup de soin, avec des touches d'humour, c'est très agréable à la lecture. Donc merci, parce que pour un premier roman, c'est un exercice qui n'est jamais très simple.
Merci.
Alors, justement, premier roman, comment avez-vous trouvé le travail avec votre éditeur? Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on appréhende ça?
Alors, le travail avec l'éditeur, bon, c'est très agréable. Hein. C'est très agréable parce que... quand vous écrivez un premier roman, bon, c'est une œuvre très solitaire, souvent qui est très rêvée, sur un temps long. Vous voyez, les premières pages que vous évoquiez, je les ai écrites il y a 10 ans, puis après, il y a des scènes que vous écrivez, puis vous dites « quand est-ce que j'aurai le temps d'en faire un roman ?» Enfin, ça dépend, là je raconte une expérience qui est personnelle, mais je pense que beaucoup d'auteurs comme ça, il y a le temps de sentir la chose... Et puis là, vous avez tout d'un coup un éditeur à qui vous envoyez tremblant votre manuscrit, plein de respect, de déférence, et puis il vous répond et vous dit « bah oui, génial, je t'ai dit ». Et là, vous avez un premier lecteur. Alors, parfois, vous avez déjà fait l'expérience de soumettre quelques écrits à des proches qui comptent sur leur bonhomie. Mais là, un éditeur, c'est un petit peu différent parce que c'est quelqu'un qui a un peu l'habitude de juger les manuscrits. Et donc, c'est très plaisant d'avoir quelqu'un qui veut vous éditer, en fait. Et ensuite, quelqu'un qui vous a lu très attentivement, parce qu'on écrit quand même pour être lu, et bon, évidemment, et pour être bien lu. C'est-à-dire que ce qui fait très plaisir, il me semble, enfin, c'est l'expérience que je ressens, c'est de voir qu'il y a quelques personnes où on sent que tout d'un coup, il y a une compréhension très fine de ce qu'on a voulu faire. C'est vrai que contrairement à... aux essais, contrairement aux débats d'idées. On s'adresse, l'art du roman, c'est un art assez personnel, et il y a quelque chose qui passe de l'émotion, qui est de l'âme un peu. Donc avoir un éditeur, en général quelqu'un qui veut vous éditer, surtout si vous êtes personne comme moi, c'est quelqu'un qui a aimé le texte. Et donc c'est quelqu'un qui a partagé une émotion que vous avez voulu faire sentir parce que vous l'avez vous-même ressenti. Et donc il y a tout de suite une relation qui est très très... assez forte et c'est très plaisant. Ouais.
Dans les premières pages du roman, et même jusqu'à la page 50, le héros rencontre, décrit. Voilà, il est spectateur, il est un peu acteur, mais il est surtout en train de prendre la mesure en fait d'une France qu'il ne connaissait pas. C'est un étudiant de lettres qui vient d'une grande ville. D'ailleurs, à un moment donné, vous racontez une soirée où ce sont les anciens de la licence ou du master 1 ou 2 de lettres qui se réunissent. Occasion rêvée de découvrir qui parmi nous était devenu poète maudit, aucun. Qui spécialiste en air d'une période littéraire, aucun. Qui en contrat précaire, attendant que se révèle un talent encore secret, je souscrivais à cette dernière catégorie et je n'étais hélas pas le seul. Lorsque j'entrais dans le salon, une douzaine de personnes étaient assises autour de la table basse sur des poufs tressés des banquettes à motifs. La plupart des villages m'étaient inconnus, des volutes de fumée s'étiraient mollement hors des bouches comme des génies sortant de leurs lampes, volant un instant au-dessous des bouteilles vides. Donc là, on ne sait pas si le narrateur a conscience du fait qu'il est quand même au bord de l'échec et d'une vie qui bientôt sera celle d'un autre personnage de Conrad, voilà, celui qui explique « je préfère mieux pas » et donc qui s'est réfugié en dehors de la vie.
Voilà. Bien sûr. Si, bon, c'est un personnage qui a conscience d'être d'une certaine médiocrité, qui incarne, je pense, un sentiment qui est sûrement partagé chez beaucoup de jeunes gens, et surtout beaucoup de jeunes hommes, je pense, parce que les jeunes hommes sont souvent assez idéalistes, donc ils sont tout feu, tout flamme, et puis tout d'un coup arrive un âge, 25 ans, vous savez, vous commencez à sortir des études, et là, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous n'êtes pas devenu chevalier, vous n'êtes pas encore président vous n'avez même pas une petite amie, enfin, vous en êtes tout. Et donc là, il peut y avoir une phase de flottement. Et donc il est dans cette phase de flottement, comme un certain nombre de ses camarades, après des études visiblement médiocres. Et ce qui m'intéressait, c'est ce personnage encore mou, mais mou aussi dans le sens tendre, mou dans le sens aussi
malléable.
Rencontre... quelque chose qui justement est dur parce qu'il a résisté à l'épreuve du temps qui est le sentiment, la légende arthurienne. Et lui, dont ça n'est pas le monde, qui a ses amis effectivement, qui sont des un peu des hobereaux de province, conservateurs, alors que lui est d'un milieu, c'est ce que vous avez bien raconté, d'un milieu de bobos, dans lequel, voilà, avec lequel il se sent finalement pas plus que ça en affinité. Va se retrouver face à quelque chose d'assez passionnel et il va devoir se positionner alors que c'est pas quelqu'un qui se positionne, c'est pas quelqu'un qui est c'est pas un chevalier, c'est pas un héros, et puis c'est quelqu'un d'un peu rêveur. C'est aussi pour ça qu'il a pas réussi spécialement dans l'action.
Alors et il va rencontrer quelque chose de dur qui est à la fois cette légende arthurienne, à travers donc quelqu'un qui prétend s'appeler Penthièvre et être le descendant direct du roi Arthur, mais aussi, et vous le soulignez tout à l'heure, Anne-Charlotte, avec vraiment le vrai peuple, des gens qui, eux, sont plus massifs à tous égards, ils ont plus de substance, voilà. Ce sont des corps, ce sont des graisses aussi d'ailleurs, hein, voilà. Autour de la chapelle, sur les pelouses, garées sous les arbres et le long des murs, partout des motos, plus de motos que je n'en avais jamais vues, de toute taille, de toute couleur, chrome brillant au soleil faisant scintiller cette étendue de reflets d'argent. Au milieu des motos, une foule de motards, bien sûr, s'esclaffant dans de grands éclats de voix bitumées, se tapant dans le dos et s'échangeant des tapas changés, ironiques et amicaux. Une atmosphère conviviale de retrouvailles, un sentiment d'entre-soi joyeux émané de cette assemblée de cuir vêtu qui n'avait plus grand-chose à voir avec les paysans en sabots des processions du XIXe siècle. Je pensais voir des bigoudens, des chapeaux ronds et des bannières. Je découvrais des blousons cloutés, des bandanas et des santiags. C'est-à-dire que c'est un pèlerinage, en fait. Un pèlerinage breton, mais et là, vous nous décrivez la Bretagne d'aujourd'hui, effectivement.
La Bretagne des bonnets rouges, en fin de compte.
Voilà, ça manque de gilets brodés, il y a plus de bonnets rouges.
Oui. J'aime bien votre mot, oui. Des gens qui sont massifs, des gens qui sont incarnés, des gens qui sont des vrais gens, comme on dit parfois. Et c'est vrai que lui, comme il n'est encore pas grand-chose, par l'âge, par plein de raisons, il se retrouve confronté à des personnages qui eux, sont... qui l'ont un peu vécu. Alors là, vous évoquez des motards, parce qu'effectivement, il y a une scène qui se passe dans un pardon de Camaret-sur-Mer, qui est en fait un pardon pour les motards, qui existe, hein, qui est organisé depuis des années. et qui est un pardon populaire d'aujourd'hui, effectivement, qui n'a plus, ne correspond pas du tout à l'image un peu folklorique qu'on a des Bigouden et du Bignou, mais qui a gardé sûrement l'essentiel de cette rugosité, aussi du pardon, de cette foi populaire très enracinée. Et souvent, ce sont ces personnages-là, et notamment il y a un personnage féminin d'une femme qui s'appelle Magali, qui est un personnage un peu central dans l'histoire, et qui est une femme, qui est une mère célibataire visiblement précaire, et qui sont souvent les personnages qui intéressent le plus le lecteur, sûrement parce que ce sont des personnages qui m'ont intéressé, et le contraste entre les deux m'intéressait. Ouais.
Alors, vous êtes nantais d'origine. Vous nous avez dit en début d'émission que les premières phrases, vous les aviez écrites il y a une dizaine d'années et qu'à l'époque, vous ne saviez pas encore si vous alliez aboutir ce roman et surtout le faire éditer. Quand est-ce que vous avez décidé de mener votre quête, si je puis dire, jusqu'au bout, votre quête chevaleresque? Et est-ce que vous vous êtes immergé en Bretagne comme votre héros romain pour aller lui pondre son article, mais vous aboutir à votre roman? Accoucher de votre roman, parce que je crois que votre éditrice aime bien ce terme d'accouchement quand il s'agit de livres.
C'est vrai. J'ai pas fait un travail journalistique, si vous voulez, comme le ferait, comme l'aurait fait un Zola avec ses carnets. Il y a un certain nombre de choses que j'ai observées. C'est aussi un peu pour ça que ça prend du temps. Quel était le début de votre question?
Quand est-ce que vous avez décidé d'aboutir
et de vraiment vous lancer au-delà d'écrire des passages, vraiment de décider que ce soit votre roman?
Ça c'est très difficile. C'est difficile à dire, c'est-à-dire que le projet d'écrire des romans depuis que je suis enfant. Donc après, certains aboutissent, certains n'aboutissent pas. Certains sont des scènes qui, en fait, là, si vous voulez, il y a des choses, il y a des scènes, il y a des réminiscences, puis tout d'un coup, effectivement, de façon organique, ça devient une histoire. Il y a un moment d'accélération, oui, il y a une phase d'accélération. En fait, quand j'ai compris que le sujet qui allait cristalliser ce qui m'intéressait, c'était la légende arthurienne, et non pas, comme je l'avais pensé dans un premier temps, d'autres légendes poitevines. Là, tout d'un coup, les choses se sont mises en perspective. C'est assez amusant. Vous avez des intuitions, puis tout d'un coup, ça s'est aligné.
Ça c'est clair.
Et là, effectivement, oui, beaucoup plus récemment que les quelques bribes qui ont pu être écrites il y a très longtemps. Oui.
Est-ce qu'on a une certaine appréhension quand on écrit un premier roman, qu'on est dans la sélection du Figaro littéraire pour la rentrée d'hiver des premiers romans, qu'on est dans la présélection du prix Jean-René Huguenin? On a une certaine... Déjà, bravo, parce que...
Merci.
Et puis vous êtes aux côtés, j'ai vu le prix d'autres très beaux titres. Est-ce qu'on a une appréhension pour écrire le second roman, ou est-ce qu'on se dit qu'on a fait le travail?
Ah, ça, c'est une bonne question. Oui et non, y a un enthousiasme d'avoir... Une confirmation de quelque chose qui vous tient aux tripes. Plus que jamais, vous avez envie de continuer et vous continuez. Ça, c'est certain. Après, c'est vrai que, pour tout vous dire, il y a des choses, justement, on parle de cet art, de trucs qui se met en perspective. Il y a des choses qui se sont mises en perspective très récemment pour moi, pour un second roman que je suis en train d'écrire, et qui procure une grande joie. Et avant, oui, il y a un peu de tout d'un coup, il peut y avoir, comme dans tout travail d'écriture, des moments un peu plus durs de se dire, on creuse, on travaille, et puis les choses ne prennent pas, si vous voulez. Ça, c'est... oui, et c'est ça qui est très beau, en fait, il me semble, dans l'écriture, c'est que ça fait partie des exercices qui nous sont donnés dans ce bas monde, où l'on reçoit. C'est-à-dire que c'est une disposition intérieure, en fait, surtout l'art de la fiction, je pense, par rapport à l'art de l'idée, qui est peut-être plus un combat. L'art de la fiction, c'est vraiment une disposition intérieure où vous êtes un peu à l'écoute de votre imagination, et puis tout d'un coup, les images viennent, et donc on se reçoit. Et ça, oui, ça, c'est extrêmement plaisant.
Alors, parmi ces images, Il y a l'idée voilà, que le roi Arthur, c'est le Moyen-Âge, une épée Excalibur plantée dans la pierre, les cavaliers en armure, la table ronde, les gonfanons et les demoiselles, et avec un peu de chance, un dragon quelque part. Et, mais là, non, vous nous lancez avec Penthièvre, homme mystérieux, mais qui habite une demeure tout à fait solide, avec du granit dans la cuisine, enfin, voilà, et qui prend une voiture pour se rendre au pardon. Donc voilà, on est un peu loin du fougueux destrier. Mais peu à peu, ce qu'on comprend aussi, c'est justement que ces motards viennent à ce pardon parce qu'ils ne peuvent pas se contenter juste d'écouter une émission à la radio ou sur YouTube qui leur parle de piston. Voilà, ils ont besoin d'autre chose. Cet être mystérieux qui se prétend le descendant du roi Arthur a envie en fait de réenchanter la Bretagne, et c'est là la veine sociale de votre roman. C'est-à-dire, on a privé en fait le peuple de toute dimension mystique, on lui a enlevé toute transcendance, on lui a expliqué que croire en Dieu était idiot et que ces légendes n'avaient aucun intérêt. On a peu à peu essayé de lui arracher toutes ces traditions. Ces gens-là ne veulent pas les perdre. Et là, il se produit une espèce de syncrétisme incroyable. À les écouter, on percevait, donc ces motards, qu'il y avait un rêve du motard, un rêve d'horizon et de liberté qu'évoquaient les différents drapeaux des pays visités, cousus sur leurs manches, comme autant de décorations militaires. Le rêve américain, bien sûr, incarnait l'horizon ultime, beaucoup arborant un écusson Rhodes 66 ou simplement un drapeau des États-Unis sur leur blouson frangé à la mode des Indiens des Appalaches. En d'autres temps, ces espèces de chevaliers de cuir auraient rêvé d'Orient. Ils auraient promené vers Jérusalem leurs héraldiques étranges, leurs lions brodés et leurs aigles cousus, comme Robert de Boron, revenu de la croisade avec la certitude que le Saint-Calice s'y transmettait de main en main parmi les descendants de Joseph d'Arimathie dans une Arménie disparue. Ils en auraient rapporté des mythes improbables et des histoires à leur gloire, en partie inventées. Leur conversation illustrait en effet le besoin viscéral de légende chez l'homme. C'était à qui raconterait la panne la plus spectaculaire, le secours le plus inattendu, alors que les coyotes commençaient déjà à encercler la Harley au réservoir vide.
Oui, vous avez raison, il y a un besoin viscéral de légende, évidemment, qui caractérise l'être humain, voilà, qui est le seul à avoir peint les grottes il y a bien longtemps, construit les cathédrales et écrit l'Iliade. Il y a un besoin de légende qui n'est pas simplement, à mon avis, un besoin de légende, qui est l'expression d'une certitude au fond du cœur de l'homme, des individus, que le monde est signé d'autre chose. Je dis ça parce que en disant il y a un besoin de légende, on pourrait relativiser un peu en disant bon, chaque époque c'est légende, puis légende c'est des légendes, c'est très bien comme ça, c'est pour distraire l'imagination. Non, je pense que les légendes sont le signe, effectivement, d'une réalité plus haute. Et c'est quand même le grand mystère de l'homme, voilà, de pourquoi nous sommes les seuls animaux, puisque d'un point de vue purement physique, évidemment, voilà, on appartient au règne animal, etc. En singe, enfin, on peut nous faire tout un tas, les biologistes peuvent nous expliquer tout un tas de choses, mais nous sommes les seuls quand même à rêver d'autres choses, à avoir conscience d'autres choses. Et il y a de ça dans cette légende arthurienne. Pourquoi elle résiste ? Parce qu'elle est une des légendes qui exprime comme avec beaucoup de force l'aspiration à un au-delà. Alors moi, j'ai un peu parlé du thème du cerf blanc, qui est un des thèmes du monde arthurien, qui est hérité du monde celtique, christianisé dans la légende arthurienne, puisque la légende arthurienne, comme on sait, elle reprend les grands thèmes, les grands motifs de tradition celtique, les épées magiques, les fées, etc., tout en les christianisant dans le cadre en fait du XIIe siècle, voilà, de Chrétien III. Mais ce thème du cerf blanc, par exemple, s'il est si efficace, c'est parce que évidemment il fait signe vers une réalité spirituelle qui parle encore aujourd'hui. Alors moi, ce qui m'a amusé, c'est de voir les spiritualités un peu contemporaines et où il y a un mélange de choses très diverses et parfois malheureuses, mais l'attrait est encore là, évidemment.
C'est peut-être justement une des raisons aussi pour laquelle vous avez choisi un héros aussi plat, c'est justement de l'opposer à cette, à ce besoin de grand, à ce besoin oui, à ce besoin de quête et à cette recherche de sens, en fait. Oui, peut-être que justement, ce personnage de Romain incarne la vacuité, d'une part, et s'oppose avec cette quête de grandeur.
Oui, en tout cas, il y a, je pense, j'ai essayé d'avoir un narrateur qui corresponde à notre époque, à sa façon. Et je pense que dans cette distance, ce qu'on a appelé la platitude, mais cette forme de distance, il y a quelque chose de contemporain. Et en même temps, ça l'intrigue. Et en même temps, ça le fascine. Ce qui est aussi très contemporain, parce qu'en fait, notre époque, notre France, n'est pas du tout... n'est pas spécialement détachée de croyances. Au contraire, elles sont là, partout, elles nous entourent partout. Croyances politiques, croyances eschatologiques, croyances... Et donc, oui, je trouve que voilà, ce légendaire arthurien, par sa puissance symbolique, il a quelque chose qui est vivifiant sur ce plan-là. Ouais.
Alors, c'est Arthur est vivifiant, et donc peu à peu, notre héros est embarqué dans une aventure. Alors, ça ne fait pas partie des références littéraires qui sont les vôtres, évidemment, mais on ne peut pas s'empêcher de penser à Raspail, parce que ce Pintièvre qui débarque de nulle part, avec un grand nom, comme une espèce de roi caché qui serait sorti de sa caverne et qui, après plusieurs siècles d'endormissement magique, brusquement reprend pied dans le 21e siècle en expliquant aux Bretons qu'il va leur rendre leur Bretagne. Ouais. Il y a une épopée, ouais. et c'est une épopée en fait un peu bizarre, parce qu'il y manque quelques châteaux, une demi-douzaine de pans servis sur les tables, voilà, une troupe nombreuse et 400 chambellans pour apporter tout ça. Donc là, non, ça se passe en voiture, ça se passe en métro. Et on sent que ceux qui adhèrent à son rêve, ce ne sont pas d'emblée les hobereaux, ce ne sont pas d'emblée les gens riches, ce ne sont pas ceux qui ont l'habitude d'estimer les honneurs et qui ont l'habitude de mettre un prix social sur les choses, parce que justement le Pintièvre leur paraît, malgré son nom, être quelque chose d'un peu mince du point de vue de la fortune et de pas totalement sérieux du côté de la street credibility des réseaux sociaux. Mais en revanche, voilà, ce sont les humbles. Ce sont les petits, ceux qui ont ce désir d'enracinement et qui se mettent à rêver effectivement d'une Bretagne revivifiée.
Oui.
J'ai mal écure du livre, si ça se trouve, je suis en train de piétiner toutes les délicatesses que vous y avez mises. Hein, c'est...
Non, je comprends très bien pourquoi vous pensez à Raspail, notamment. Je pense que vous avez songé à Cire.
Oui.
Jean Raspail, le roman... où le roi revient, alors je ne sais plus si c'est Louis XIX qui revient, mais il y a un descendant des Bourbons qui revient et qui va entraîner dans une espèce de quête qui se finit à la basilique de Saint-Denis. Je me souviens de scènes, j'ai vu ça il y a longtemps, mais il y a des scènes terribles. Il y a un contraste entre les gens de Saint-Denis, il y a des Antillaises, il me semble, qui rencontrent ce descendant du roi. La différence, je pense, en revanche, avec Cire de Raspail, et c'est vrai que je pense que c'est deux genres de romans très très différents, c'est que Raspail n'a aucun doute sur le fait que c'est le roi qui revient, c'est le descendant du roi, alors que moi, mon roman raconte l'histoire d'un bobo à qui des amis un peu conservateurs disent il y a quelqu'un à côté de chez nous qui se prétend le descendant du roi Arthur, et eux pensent qu'il la fabule, parce que eux connaissent un peu l'histoire, et que voilà, c'est ce que vous disiez. Il le regarde avec un peu de mépris, parce que certes, il dit qu'il porte le nom de Pintièvre, mais il n'est pas recensé dans l'ANF. Donc il y a un moment, il faut être sérieux. Si
l'association d'entraide de la noblesse française.
Bien sûr. Donc là, il y a une. Eux n'y croient pas. Voilà, sont dubitatifs. Et lui ne connaît pas, n'a pas de raison d'y croire. Et la question, en fait, c'est est-ce que ce monsieur qui dit je suis le descendant. Je m'appelle Pintièvre alors que la famille est censée être éteinte. Et je revendique de descendre du roi Arthur. D'ailleurs, je porte son anneau. Est-ce que ce monsieur est un affabulateur? Et s'il affabule, il va mystifier les foules qui croient en lui. Et c'est ça, de fait, le sujet de mon livre.
Oui, mais sauf qu'il ne les mystifie pas. Il leur propose un rêve et les autres y adhèrent. En fait, et lui-même n'en tire d'ailleurs pas beaucoup de gloire et encore moins de fortune. C'est pas Emmanuel Macron qui explique qu'il va transformer la France. C'est pas Jean-Luc Mélenchon qui nous explique qu'une nouvelle France est en train d'apparaître. On a l'impression que c'est comme si l'âme de la Bretagne avait senti qu'il était temps de réagir et donc de s'incarner dans un Penthièvre dont on ignore s'il a une existence réelle. Il apparaît déjà vieux il est là, sorti de nulle part, en train d'essayer, une fois plus comme un rêve épuisé mais encore vivace, de rassembler autour de lui des gens capables de croire encore à la Bretagne.
Oui, c'est une lecture.
Ce qui est sûr, l'idée, c'est que vous me donniez la vraie, en fait.
Ce qui est sûr, c'est que vous avez raison de dire que c'est un personnage qui est un peu vieux, et donc ça n'est pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'est finalement, c'est pas la crédibilité de ce personnage qui est un peu un masque. C'est ce qu'il révèle des personnages qui, eux, existent. Donc le narrateur, l'ami historienne du narrateur avec laquelle il mène cette espèce d'enquête, et puis les motards. Magali. Les personnages qui, eux, existent et qui, eux, effectivement, se projettent sur le rêve de la Bretagne d'Arthur. J'ai pris là une critique sur le roman où j'ai trouvé, il y a une phrase qui me semble très bien résumée, mieux que je le ferai avec vous, ce qui se joue, donc je vous la lis.
Et mieux que nous ne l'avons fait nous-mêmes, visiblement, en fait, Anne Charlotte.
Voilà,
mais merci. Merci Bertrand Duguay, vous avez été avec nous pendant 37 minutes.
Je ne dirais pas ça, mais elle rejoint tout à fait votre intuition.
Ah, tout va bien, Richard. L'honneur est sauf.
Finalement, on va rester encore pendant 23 minutes.
Réflexion sur le mystère et l'illusion, mais aussi l'attachement à la Terre. Ce roman dresse le tableau d'une France des gens simples qui a besoin de rêver pour transcender les dures réalités de sa condition. Bon, jusque-là. Et personne n'ajoute. Mais aussi, paradoxalement, de rêver mieux pour épouser le réel et dissiper les mirages de l'illusion. Et je trouve que c'est une très bonne expression de ce que j'ai essayé de faire. Parce que effectivement, le rêve, il a aussi son ambiguïté. Parce qu'il nous entraîne et qu'il peut aussi nous perdre. Mais en même temps, il est omniprésent dans la manière dont on perçoit le réel. C'est-à-dire qu'on rêve le réel très largement, en fait. On n'a pas du tout, on n'est pas là à percevoir le réel grâce à notre raison de façon parfaitement. La plupart du temps, l'imagination est glissée partout dans notre manière d'appréhender le réel. Donc.
Parce que moi, j'aurais tendance à comprendre cette phrase absolument remarquable qui est le confrère, Raphaël Simon, la consoeur. Et j'aurais tendance à la prendre aussi pour une partie de votre roman. C'est-à-dire, il y a deux illusions qui s'affrontent. Il y a l'illusion. De cette Bretagne ancestrale, de cette Bretagne mythique qui a existé d'une certaine manière. Le roi Arthur, bien sûr c'est un roman, bien sûr ce sont des légendes celtes, mais voilà, c'est un peuple qui a peu à peu constitué cette culture, imaginé ses récits, aggloméré des traditions différentes avec Chrétien de Troyes et d'autres. Et il y a un autre rêve qui est le rêve de la modernité, le rêve justement de la route 66 qui est censée être celle de la liberté, le rêve des États-Unis comme horizon insurpassable du consommateur contemporain. Et voilà, ce sont deux illusions qui s'affrontent et on sent que les personnages qui prennent le parti de Penthièvre sont ceux qui ont envie de dissiper l'illusion moderne, l'illusion technocratique. Voilà, c'est le bonnet rouge ou c'est le gilet jaune qui se rendent compte qu'on leur a promis que tout irait bien et qu'en fait, visiblement, les choses ne sont pas si simples et que la vie n'est pas, malgré les diplômes au rabais et les promesses de paiement en 4 fois sans frais, de cette espèce de délice de capoue permanente.
Oui, non, c'est très juste. C'est sûr que il n'est pas très difficile de constater maintenant au tournant du quart du 21e siècle que le rêve de la société de consommation est un petit peu fatigué. Mais si vous voulez, pour le coup, moi je suis depuis que je suis né, on nous dit ça et c'est certain. Et c'est vrai que c'est très touchant de voir qu'au contraire, un rêve comme le rêve arthurien, effectivement, qui est un rêve, parce que vous avez dit, c'est une réalité historique. Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a aussi un moment où il y a un personnage qui est historien dans le roman, qui qui fait un petit bilan de la situation historique. Et le fait est qu'historiquement parlant, on ne sait pas grand-chose. Né d'Arthur, même s'il y a une trace dans un manuel, dans un texte celte qui dit « Il y avait un chef, il était puissant, mais ça n'était pas Arthur. » Donc, sous-entendu, là, c'est le seul endroit de l'histoire où Arthur est mentionné. Que Arthur, on l'associe, c'est ce que d'ailleurs on a fait dans nos discussions, au Moyen-Âge, des chevaliers, des cathédrales, et... alors que a priori, c'est un chef de l'Antiquité tardive, puisqu'il vit au moment de l'effondrement de l'Empire romain, et que ça, c'est la réappropriation par Chrétien III, par le Moyen-Âge classique, qui a donné cette image. Donc, Arthur, il y a un mythe arthurien, qui est une construction, et la persistance de ce mythe arthurien dit, effectivement, qu'il est vrai. Dit qu'il a une puissance organique qui est vraie comme mythe, plus encore que comme fait historique. Et ça, du coup, bah, ça fait qu'il reste vivace et qu'il enthousiasme, qu'il enchante, si on veut, le quotidien de gens qui, par ailleurs, effectivement, sont un peu victimes d'une société de consommation qui, comme vous l'avez dit, ne leur offre pas grand-chose.
Alors, vous êtes aussi, en dehors de votre activité d'auteur, vous êtes aussi professeur. Quelle est votre vision de la lecture aujourd'hui chez les jeunes ? La jeune génération lit-elle ? Si oui, que lit-elle ? Et est-ce que vos élèves ont lu votre livre ? Savent-ils seulement d'ailleurs que vous avez écrit un roman ?
Je ne leur en ai pas parlé. Mais
comme les élèves de Julien Gracq, ils vous croient un professeur extrêmement ennuyeux. Enfin, voilà.
J'aimerais bien qu'ils me croient un professeur moins ennuyeux et qu'ils n'aient pas les mêmes livres, plutôt que l'inverse. Pour cette dernière question, je ne leur en ai pas parlé, mais vous savez que les élèves sont des gens curieux. Et donc, ils ont su. Et effectivement, certains m'ont dit qu'ils avaient lu le livre. Ou qu'ils étaient en train de le lire, je ne leur en ai pas reparlé, et je ne sais pas ce qu'ils en ont pensé. Peut-être un jour, je le saurai, mais pour l'instant, nous sommes encore dans le troisième trimestre.
Très bien.
Après, plus généralement pour la lecture, bon, il est évident qu'on est dans une époque qui est peu porteuse pour la lecture, surtout pour des lycéens, puisque moi, ce sont des élèves du lycée. Les collégiens, les petits, lisent encore davantage. Puis il y a cette espèce de creux d'effondrement de la lecture qui arrive au moment de l'adolescence, parce que c'est le moment du portable. Bon, tout le monde sait que voilà, le smartphone est l'ennemi capital à peu près de toute forme de vie intérieure, et en tout cas de la lecture. Ce qui est certain aussi, c'est que la puissance de notre lecture patrimoniale, de notre littérature patrimoniale, de nos classiques, jusqu'à des livres assez récents et très bons, est encore capable d'enthousiasmer des jeunes. Alors, je ne dis pas tous les jeunes tout le temps, bien sûr. Mais ça, c'est le miracle auquel on assiste quand on fait ce métier dans des bonnes conditions. Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire dans des conditions normales d'exercice, très, très agréables. C'est que nous vivons, quand on enseigne, un moment parfaitement gratuit. On n'a rien à leur vendre. On a partagé cette passion pour la littérature, et eux, quand ils commencent à écouter, ils se rendent compte du potentiel formidable. Parfois, voilà, il y a des épiphanies comme celles qu'on a vécues quand on est élève soi-même, chez certains, et de façon parfaitement qui est assez mystérieuse pour le professeur, parce que le professeur ne sait pas ce qui se passe dans le fond intérieur de ses élèves. C'est ce qui fait d'ailleurs la chose magnifique de ce métier, c'est que vous n'avez aucun moyen de savoir si vous réussissez. Il n'y a aucun indice de performance. Les notes, les examens, si vous voulez, mais ce n'est pas ça qui compte, puisque nous, on est là pour transmettre, pour éveiller le fort intérieur de l'élève, sur lequel il n'y a aucune prise. On peut éventuellement tester la mémorisation à court terme, des choses comme ça, mais on ne sait pas ce qu'ils auront retenu d'un cours, et c'est souvent pas ce à quoi on avait pensé.
Peut-être que quand vous serez intégralement édité dans la Pléiade, vos élèves se souviendront de vos cours.
L'aventure de Pintièvre continue, et c'est à la fois un peu farcesque, parce qu'évidemment on est très très loin de la quête du Graal, puisqu'on va se retrouver dans une ZAD, et en même temps il y a ce côté... tout à fait touchant de gens qui veulent résister, en fait. Ils ne veulent pas se soumettre à l'ordre républicain, à l'ordre bourgeois, à l'ordre technocratique. Voilà. Il s'agit de ne pas être d'accord, alors, en ayant souvent de bonnes raisons de ne pas être d'accord, mais il s'agit de se trouver une cause. Et Penthièvre épouse cette cause. Donc, je me retrouvais un soir dans la voiture d'Armel. Il roula comme un fou dans l'obscurité en écoutant du rock indé, jusqu'à un rond-point où semblait s'être massée une petite foule. Un homme parlait, de part et d'autre, deux gigantesques tracteurs, leurs silhouettes dressées comme d'immenses gardes du corps, l'illuminaient de leurs phares jaunes. L'homme, en polaire et casquette, fit un discours assez maladroit sur le lancement d'une ZAD dans le champ derrière lui. Je crus comprendre que c'était son chant. Au terme de son éprouvante allocution, il s'écria « Et nous avons, camarades, un soutien de poids ce soir. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour un homme que vous connaissez tous, le duc de Penthièvre, descendant du roi Arthur, qui est avec nous sur le coup. » Apparut alors sur la tribune le duc, entouré d'une dizaine de proches qui portaient de grands drapeaux des différents Bretons, donnant à son arrivée un aspect grandiose. Comme à Carhaix, la foule, entraînée entre autres par Armel, scanda « Penthièvre avec nous !» Et donc, c'est génial. On a l'impression que le roi Arthur, effectivement, n'est pas du tout en train d'être au milieu de sa table ronde avec son anap rempli de vin clairet et des gens en train de lui raconter des chevauchées fantastiques. Non, il est au milieu des bonnets rouges, gilets jaunes sur un rond-point en train de se dire que voilà, la Bretagne va ressurgir et peut-être Excalibur avec dans un champ transformé en ZAD, en zone à défendre.
Vous avez même une citation, mais je la retrouve pas. Mais où justement il dit que. Où on demande au personnage s'il a une liste pour les, pour les européennes de la Bretagne indépendante. Et il répond qu'on se moquerait de nous avec la table ronde au Parlement européen. Et enfin, voilà, il y a tout un fil politique assez comique.
Il y a effectivement un petit débat avec un vrai politique.
Oui.
Et eux,
du conseil municipal.
Ils veulent rentrer en politique. Et ouais. Politique, non. C'est une affaire sérieuse. En fait, c'est une affaire de réaliste. Et ce ne sont pas des gens qui sont réalistes, ceux qui suivent Penthièvre, parce qu'on ne sait même pas si c'est le descendant du roi Arthur. Donc, effectivement, vous l'avez dit, c'est aussi la cristallisation de la colère, qui, là, est un thème qui, évidemment, ne peut pas nous laisser insensibles. C'est-à-dire que, là, alors, il agglomère autour de lui tout un tas de gens qui sont en colère pour des raisons assez différentes, qui vont avoir beaucoup de mal à construire quelque chose ensemble, évidemment, parce que effectivement il y a différentes sensibilités très nettes, mais qui ont en point commun d'être fâchés parce que aussi la société est dure avec eux, parce que souvent ce sont des gens pour qui le monde est dur. Il y a un personnage un peu pivot dans ce roman qui est le fils d'un agriculteur, son père est le petit-fils d'un agriculteur, d'une famille du monde rural. Le père, lui, a vécu, si vous voulez, la PAC, la transition agricole. Il a réussi à s'adapter en modernisant considérablement son mode de vie et son mode d'exploitation. Et le fils, qui peut-être est un peu romantique, qui visiblement ne s'entend pas avec le père, rêve de revenir à une agriculture plus traditionnelle, etc. Mais ça, c'est des aspirations qu'on entend tout le temps. Il suffit d'ouvrir les journaux. Et donc oui, toutes ces colères me rendaient la Bretagne assez sympathique. Je lisais il n'y a pas longtemps, dans 93 de Hugo, où il dit « La Bretagne est une vieille colérique ». Et c'est vrai qu'il y a de ça aussi. Il y a un tempérament breton qui est connu quand même, qui est un tempérament de... Une vieille rebelle, il dit, je crois, Hugo. Un tempérament rebelle. Et donc ça se prête assez bien, là.
Non, ce Penthièvre, c'est aussi une figure christique d'une certaine manière, parce que effectivement, il agrège autour de lui tout un tas de mécontentements, et on se souvient que le Christ débarque, et il y a ceux qui attendent le retour du Sauveur, il y a ceux qui veulent le départ des Romains, et donc il y a plusieurs courants de pensée politique, il y a plusieurs types d'activisme politique, il y a plusieurs courants religieux, et chacun projette sur le Christ la réussite de son courant, et évidemment, ils sont tous peu à peu déçus par le Christ, qui visiblement n'a pas envie de prendre le pouvoir, qui n'a pas envie de devenir grand Sanhédrin, qui n'a pas envie de bouter les Romains hors de Palestine. Et le Christ finit seul, crucifié, avec juste trois personnes autour de la croix, dont une prostituée repentie. Donc on est un peu loin du succès. Et Penthièvre aussi voilà, se retrouve être le réceptacle de ses rêves, qui aimerait, qui est un vecteur pour faire en sorte que ça y est, la réalité change. Et lui aussi, en fait, va... non pas être décevant, mais et il va être absent à un moment donné.
Oui. Alors, je veux pas dévoiler pour vos lecteurs la fin du roman, mais...
Revenons plutôt sur mon intuition géniale du fait que c'est un personnage christique.
Alors, là, c'est une intuition géniale.
Je trouve que ça éclaire complètement différemment la manière. Je ne sais pas si vous-même vous y aviez songé, en fait.
Ça me donne envie de le réécrire. Oui, bah, c'est sûr. Oui, non, mais c'est sûr que c'est un. Que la. La question spirituelle fait partie des questions qui m'intéressaient aussi dans ce roman, même si elle est sur un mode qui est assez mineur, parce qu'on y voit des personnages qui, notamment pour un personnage qui est le personnage féminin, qui a aussi...
Éline.
Magali. Oui, Magali. Qui a aussi une aspiration de foi. Alors tout ça est assez... part dans des sens très variés, très divers, comme on peut le faire aujourd'hui, en fait, où les propositions sont tellement multiples, si vous voulez. C'est certain qu'il y a dans l'aventure de Penthièvre quelque chose qui, en tout cas, interroge, je dirais, aussi quelque chose qui interroge sur ce qu'il y a de plus grand que voilà, la réalité politique, que la réalité... Et effectivement, ceux qui rêvent, là où c'est... là où votre intuition touche vraiment au vrai, c'est que le personnage de celui qui va être un peu le numéro 2 de Penthièvre, celui qui veut en faire une aventure politique, qui rêve vraiment de réussir à quelque chose de ces gens qui entouraient le Christ, qui rêvaient vraiment de mettre les Romains dehors et qui effectivement sont déçus. Ouais.
Alors, comme Richard parlait de cette figure christique, revenons à vos influences littéraires. Vous n'avez pas du tout évoqué C.S. Lewis et Tolkien, ouais. Respectivement les auteurs, entre autres, de Narnia et du Seigneur des Anneaux, mais des auteurs dans lesquels, pour lesquels la figure christique est importante. Ouais. Ça aurait pu être certaines de vos
Lewis,
influences.
Non, Tolkien, oui. Lewis, non, tout simplement parce que j'ai lu le tome 1 de Narnia quand j'étais enfant et que ça ne m'a pas
Vous n'avez
marqué.
Pas suivi les 6 autres.
Voilà, alors que Tolkien, ça m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant, oui. C'est un genre très très différent, mais c'est certain que Tolkien est un grand auteur, notamment parce que ce qu'il a de très grand, c'est que il était philologue, il me semble, à l'université, et c'est un des seuls contemporains, c'est un homme du XXe siècle, qui a écrit une littérature entièrement symbolique sans que personne n'y voie à dire, parce que la magie, par exemple, chez Tolkien, elle est purement symbolique. Il y a un anneau immense là, qui peut aller au doigt du Seigneur des Ténèbres, qui va aussi bien au doigt des Hobbits. Donc tout ça, d'un point de vue mécanique, on ne comprend pas comment ça marche, mais personne ne se pose la question. Hein,
personne ne vient remettre ça en cause.
Alors que Harry Potter, par exemple, qui est aussi une histoire avec la magie, tout est logique. On nous explique toujours que les choses ont des propriétés, que c'est pour ça que hop, la cape d'invisibilité vous rend visible, machin. Tolkien, on s'extrait du monde physique. Les lois de la physique n'intéressent pas Tolkien. Et ça marche sur un lectorat contemporain. Et ça, en fait, c'est un homme qui écrit comme au Moyen-Âge, qui le fait au XXe siècle, et ça marche.
Et ça marche encore au XXIe.
Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable, ouais.
Et il y a aussi, chez Tolkien, la volonté de ressusciter un passé, et avec sa théorie de dire que... chaque histoire, n'a de profondeur qu'à condition qu'elle soit ancrée sur un passé qui lui-même, d'ailleurs, est à un moment donné le futur d'un passé encore plus ancien. Oui. Et il y a ces couches qui descendent chez Tolkien jusqu'à la création du monde. Et il réinvente comme ça des strates mythologiques tout à fait intéressantes et qui finissent par perfuser dans le réel du présent, de la quête du Seigneur de l'Anneau. Chez vous aussi, aussi, voilà, on voit bien que l'idée d'aller chercher le roi Arthur, c'est d'aller chercher ce qui est le plus ancien, vous le citiez tout à l'heure, voilà, la décadence de l'Empire romain, en fait, et en même temps, ce qui est sans doute le plus vivace, puisque c'est un filet d'eau qui continue encore aujourd'hui à courir.
Oui, c'est vrai que ça, c'est un des grands pouvoirs de la littérature, que moi, je trouve absolument formidable. C'est la littérature, c'est un espace où vous pouvez faire dialoguer le temps à votre guise. Et ça, c'est vrai que vous avez tout d'un coup le pouvoir, effectivement, de se faire se rencontrer les époques, se faire rentrer en écho des époques. Or, c'est ce que nous sommes. Hein. Nous sommes le fruit d'histoire. Donc oui, je retiendrai votre métaphore du filet d'eau qui court.
Mais retenez aussi les autres interventions de Richard,
qui étaient tout autant intéressantes.
D'ailleurs, je fais mes offres de service à tous les journalistes qui voudraient parler du roman de Bertrand Duguay, La Terre ou les illusions retrouvées. Voilà, je crois qu'on a fait aujourd'hui, avec Anne-Charlotte et vous-même, l'émission définitive. Tiens, il y a une faute d'orthographe, mon Dieu.
Eh oui, j'ai vu ça.
Dans le nom.
Le nom de l'auteur a été
marqué,
un peu écorché.
Il y a marqué Bertrand Duguay. Mais c'est joli, Bertrand Duguay.
Oui, bon. C'est médiéval en tout cas, la faute d'orthographe.
Mais oui, voilà.
Pourquoi pas. C'est ça. Non, il y a un côté assez chic.
C'est un parti pris. C'est un parti pris.
Bertrand Duguay, ce roman est paru il y a quelques semaines, si je ne m'abuse.
Oui, c'est ça. Oui, on peut même aller jusqu'au mois.
On peut
mais
deux
après
mois.
Tous
allez,
les mois
deux
sont
mois.
Des accumulations de semaines. Oui,
Anne-Charlotte.
Je vous le dis, Richard, c'est Marie-Charlotte.
Marie-Charlotte.
Mais c'est pas grave, comme ça, tous nos invités ont eu une erreur de prénom. Personne n'est vexé aujourd'hui.
J'ai décidé, voilà. Bonjour, je me présente, Adalbert de Sèze. Marie-Charlotte en parlait tout à l'heure. Vous avez déjà été sélectionnée pour plusieurs prix. Donc, c'est un roman qui va... C'est un roman... c'est fini, en fait. Voilà, il m'est arrivé la même mésaventure qu'à ma dernière émission.
Ça se coupe automatiquement.
Non, ça se coupe automatiquement. Je peux continuer à parler et ennuyer absolument tout le monde, mais on ne va pas le faire. Donc, merci beaucoup, Bertrand Duguay, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Marie-Charlotte, d'avoir été avec
mais
nous.
Avec
merci
Richard.
Virginie de m'avoir rappelé à l'heure. Et chers auditeurs, je vous dis bien sûr à demain avec Arthur de Vatrigan.
Ça suffit maintenant.